Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
La police en démocratie.
Vous êtes entré dans une institution où vous devez d'être exemplaire. Exemplaire dans la vie privée, exemplaire professionnellement. Parce que, je vous rappelle quand même, demain sur la voie publique, c'est vous qui allez devoir gérer les problèmes des gens.
La police nationale est mise à rude épreuve par la période d'urgence dans laquelle nous sommes entrés pour longtemps. Mais quel que soit le moment, ses membres se sentent écartelés entre trop d'exigences sans que leurs responsables puissent leur présenter une doctrine claire ou du moins durable. Contenir ou réduire le taux de délinquance, identifier les responsables pour les confier ensuite aux procureurs, satisfaire au quotidien la demande de plus en plus pressante de sécurité des Français. Ce sont des objectifs différents et qui peuvent diverger. Du côté des policiers, les revendications, on le sait, portent d'abord sur le rapport avec la hiérarchie, les effectifs, l'équipement, l'usage des armes. Ni dans ces demandes, ni dans les objectifs du ministère n'apparaît comme une priorité la confiance de la population en sa police. Or, la police, ce n'est pas seulement la BAC qui fait exploser des portes dans le journal télévisé. La police nationale compte plus de 140 000 membres et ses agents savent moins bien communiquer pour se faire obéir sans heurts que les Anglais ou les Allemands, comme s'ils étaient frappés d'une infirmité relationnelle. Le ministère de l'Intérieur ne prend pas la mesure de la rupture de l'égalité devant la police que constituent les contrôles dits « contrôles au faciès ». Aujourd'hui, en la matière, de nombreux travaux existent. Que disent-ils sur la confiance des Français en la police et donc sur sa légitimité en régime démocratique?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Eh bien, des réponses aujourd'hui avec Sébastien Rocher. Bonjour.
Bonjour.
Vous publiez de la police en démocratie. Vous enseignez à l'école des commissaires de police et des officiers de police, entre autres.
Oui, j'enseigne depuis 1993 à l'École nationale supérieure de la police et j'ai survécu à toutes les alternances.
Si la France manque de politique à moyen terme dans ce domaine, elle ne manque pas de chercheurs au long cours, vous en êtes un. Et quand je dis chercheurs au long cours, c'est pas seulement à cause du nombre d'années, plus d'un quart de siècle maintenant que vous travaillez sur les sujets de sécurité et de police, mais vous avez aussi beaucoup travaillé à l'étranger. Alors, vous pourriez tout nous dire, si ça n'était couvert par le sceau du secret, sur le rapport entre les polices de l'Union européenne et la police turque auprès de laquelle vous avez œuvré pendant des années.
Oui, j'étais conseiller technique en chef de la réforme de la sécurité en Turquie pour l'Union européenne auprès du ministère de l'Intérieur turc. Donc je connais assez bien un certain nombre de pays musulmans et de l'autre côté de la Méditerranée également.
Oui, parce qu'en Afrique noire, vous avez connu le choc de la police de Guinée-Conakry.
Oui, en Guinée, on a une police qui n'a pas de moyens. Les chefs d'une unité ne savent pas qui va se présenter le lendemain. Leurs effectifs peuvent gonfler de 50% du jour à l'autre avec des personnels qui ne sont pas nécessairement formés, donc c'est une autre forme de police.
Et nous allons parler surtout de la France, mais vous avez un point d'attache en France durable, c'est Grenoble, où vous animez un groupe à Sciences Po, et on entendra dans la première partie de l'émission des archives sonores qui viennent de votre bonne ville. Ce qui vous caractérise aussi, c'est le goût de l'enquête, de l'enquête lourde, on parlera des enquêtes internationales tout à l'heure. Tenez un exemple, ça c'était dans la plus haute antiquité, dans le moment de vos débuts, vous aviez monté une enquête anonyme pour demander aux gens « Oh, vous n'êtes pas fait pincer, on vous garantit la tranquillité, mais en face à face, vous pourriez nous dire quand même les délits que vous avez vraiment commis ?»
Voilà, ça s'appelle les enquêtes de délinquance auto-déclarées. Donc, c'est des protocoles qui permettent aux gens de détailler, par le menu, en fait, l'ensemble des délits qu'ils ont commis. Et bien sûr, ils ne risquent rien. On leur explique qu'ils ne risquent rien. Et c'est des enquêtes qu'on a répétées auprès des adolescents. Évidemment, les résultats sont surprenants. La plupart des délits sont complètement inconnus des autorités, de la justice, bien sûr, mais également de la police. Donc on ouvre en fait la boîte noire de la délinquance avec ce type d'outils.
Alors ces délits, s'ils avaient été répertoriés, on les aurait rangés au nom des incivilités. Vos débuts dans le métier de chercheur ont contribué à documenter cette notion, pas toujours très bien connue de vos compatriotes grenoblois. C'était en quête sur le terrain, enfin micro-trottoir, sur FR3 en 1997.
Si je vous dis incivilité, ça veut dire quoi ?
Incivilité, ça veut dire qu'il n'est pas civilisé, la personne en question.
Bah, je crois que c'est ne pas respecter les lois qui sont en vigueur pour tout le monde.
Incivilité, ça veut dire qu'on dégrade, qu'on n'est pas dans, on n'a pas dans le sens civil.
L'incivilité, c'est une gêne, un ennui qui est procuré par certains auprès d'autrui, qui effectivement ne relève pas toujours de la justice, mais en tous les cas crée des désagréments. Nous voulons les combattre parce que les incivilités contribuent au sentiment d'insécurité et les génèrent de la délinquance.
Les enfants, les jeunes manquent aujourd'hui d'exemples dans la société. Au contraire, ils ont des contre-exemples par rapport à ce qu'ils apprennent à l'école. Donc c'est simplement la mobilisation des adultes qui peut nous parvenir à rendre efficace notre éducation que nous donnons en classe.
Quoi qu'il en soit, les incivilités coûtent cher à la collectivité, donc aux contribuables. En 1996, la remise en état des sites dégradés a coûté plus de 2 millions de francs à la ville de Grenoble. L'occasion donc de rappeler que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle d'autrui.
Pour connaître Sébastien Rocher, le style inimitable du catéchisme médiatique, la journaliste de FR3, l'inspectrice d'Académie avant, le conseiller municipal en charge des questions de sécurité. Justement, un certain nombre de vos collègues, vous les nommez les sociologues militants, vous ont reproché, Sébastien Rocher, d'avoir contribué à cette doctrine des incivilités qui a pour conséquence le catéchisme, la morale, la moraline, et pour autre conséquence, la théorie de la réparation. Dès qu'une vitre est brisée, on doit la réparer, toutes les affaires cessantes.
Mais c'est marrant parce qu'en écoutant depuis, avec le recul, 96, 2006, 2016, 20 ans, c'était vraiment une autre époque. Et le micro-trottoir en témoigne. C'est une époque où on s'interrogeait sur la sécurité des quotidiens, sur les demandes des habitants, sur comment faut-il la traiter par la police, par la justice, quelle était la bonne approche. Et aujourd'hui, dans l'ambiance marquée par le terrorisme, on voit combien le débat complètement changé. Donc oui, moi je me suis intéressé vraiment à cette sécurité par le bas, aux besoins des gens, à la manière dont on peut essayer de le traiter, de le prendre en considération. Et forcément, il y a une dimension morale, parce que le crime, c'est mal. Et donc la religion a codifié ça, le code pénal après. Donc il y a une dimension morale dans la réflexion sur le crime, et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ça.
Mais si on n'est pas à l'aise, c'est que beaucoup considèrent le délit comme une conséquence. Et vous, vous prenez la violence, même mineure, l'incivilité par exemple, comme une cause.
Oui, voilà, c'est que toutes les causes ont des causes qui sont elles-mêmes causées par d'autres causes. Donc c'est toujours très difficile de se situer dans cet enchaînement. Mais il est certain que la violence a des causes, mais elle a aussi des effets. Et aujourd'hui, je crois qu'avec le terrorisme, on le voit. On voit, si on rapporte le nombre de morts, il y a quand même plusieurs centaines de morts, mais si on le rapporte à d'autres quantités de sources de décès, par exemple comme les violences contre les femmes, les homicides qui sont des homicides domestiques, on voit que le terrorisme génère une réaction qui est beaucoup plus puissante que la somme, des femmes qui ont été tuées par leur mari ou leur amant. Donc on voit bien qu'il y a une dynamique qui se crée à partir des faits eux-mêmes.
Mais je reviens à la période que vous définissez comme autre, celle où le terrorisme n'était qu'épisodique, ou n'apparaissait qu'accidentel. Quand vous parliez des incivilités, que vous faisiez ces enquêtes, vous affirmiez, je ne sais pas si c'est haut et fort, mais enfin vous murmuriez qu'il y avait un comportement particulier des adolescents d'origine maghrébine.
Oui, parce qu'à partir des années 90, donc j'ai déployé en France des études, ces études de délinquance autodéclarées, d'abord à Grenoble, puis à Saint-Étienne, et dans les grandes villes françaises, on a essayé de mesurer avec un outil indépendant de la police et de la justice. Parce que des fois on dit, oui, les policiers arrêtent plus de jeunes d'origine maghrébine, c'est pour ça qu'il y en a plus dans les statistiques. Et si les policiers n'avaient pas un biais, eh bien, il n'y en aurait pas plus. Et avec ces études, on pouvait montrer qu'il y avait des déterminants socio-économiques, hein, le quartier de résidence, la pauvreté, mais il y avait aussi une dimension ethnique dans la délinquance.
On continue de parcourir à grands pas votre vie de chercheur. Alors certains diraient, il a descendu la pente la plus forte, vous vous êtes intéressé de plus en plus à la police.
Oui.
Et je voudrais qu'on prenne un autre dossier qui appartient lui aussi à la vieille histoire, celui de la police de proximité. La police de proximité qui avait été lancée par Jean-Pierre Chevènement, c'est pas du tout mettre des policiers sur les terrains de football avec les jeunes. C'est tout un dispositif. Hein. Les contrats locaux de sécurité ont fait travailler ensemble les policiers, les procureurs. C'est la visibilité de la police et c'est la police tournée vers l'usager. Je résume bien les choses.
Oui, c'était le concept était un concept extrêmement sophistiqué. C'est la dernière fois qu'en France, on a eu des idées sur la manière de faire la police de sécurité publique, la police du quotidien. Et l'idée, c'était effectivement que l'usager devait être satisfait de la police et devait aimer la police. Donc, on devait se tourner vers ses besoins pour qu'il soit satisfait et pour qu'on répare, en fait, la relation police-population qui était endommagée. Et c'était une police qui, justement, et contrairement à ce qu'on a souvent dit, a développé ce qu'on appelait le petit judiciaire, donc la capacité d'enquête judiciaire sur les petits délits. Donc, il y avait tout un volet judiciaire qui n'était pas du tout réductible à la caricature que M. Sarkozy a voulu faire de cette réforme.
L'impulsion est venue de l'extérieur. Je ne sais pas si Jean-Pierre Chevènement était à ce point convaincu de la doctrine qu'il lançait. L'échec est venu de l'intérieur, des résistances des policiers qui trouvaient un peu bizarre de devenir des polyvalents. Ou bien l'échec est venu de l'extérieur?
L'impulsion est venu du Premier ministre, de Lionel Jospin, et Chevènement voulait à l'époque être garde des Sceaux. Il ne voulait pas du tout être ministre de l'Intérieur, mais bon, c'est ce qu'il a eu, donc il a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et je dirais qu'il n'a jamais vraiment compris la réforme qui devait animer, enfin, selon moi, puis si on lit ses mémoires. Donc l'impulsion est une impulsion politique, le Parti Socialiste était prêt à le faire, et l'a lancé, et le Parti Socialiste est responsable, Lionel Jospin aussi, de l'échec, parce que eh bien, il a voulu précipiter les choses, réformer une administration de 140 000 personnes en quelques années, c'est impossible.
Vous revenez de vos missions à l'extérieur, une fois qu'a été abandonnée la politique de la police de proximité par le président Sarkozy. Et dans votre bonne ville de Grenoble, ce sont les émeutes dans le quartier de la Villeneuve. On est passé du temps de la proximité à l'extériorité de la police. Reportage 2010.
Mon admission de proximité, elle est plus possible. Avec les menaces qui pèsent sur les fonctionnaires de police, faire une patrouille pédestre de proximité dans le quartier, ça serait suicidaire en fait. Donc du coup, on sécurise, mais la périphérie.
Il y a eu pour la première fois à Grenoble tout le temps des tirs sur les policiers, des tirs à balles réelles. Et il y a un fonctionnaire, un major, qui a riposté à 5 reprises. Pour essayer de se sortir de là, on a de belles images du tireur. Pour l'instant, on est dans une situation où on a encore des individus qui cherchent à se venger, qui sont véritablement dans une vengeance permanente à notre égard. Ils veulent un partout, c'est ce qu'ils disent dans les cités. C'est-à-dire, il y a un mort de leur côté, il y aura un mort du nôtre.
Ça vous inquiète ?
C'est très inquiétant. On est passé à un autre niveau.
Sébastien Rocher ?
On est redescendu de ce niveau-là à Grenoble. Il y a aujourd'hui des patrouilles qui sont organisées par le directeur départemental de la sécurité publique qui a refondu d'ailleurs les équipes. Et donc on peut entrer, mais ça dépend comment on s'y prend. Cela dit, il y a une culture antipolicière en France dans les banlieues, dans les zones défavorisées, qui est très forte, on l'a mesuré, hein, qui est très élevé. Il y a un niveau d'hostilité et même de préparation au fait d'attaquer la police, de la caillasser, qui est surprenant.
Avec des possibilités armées, depuis longtemps.
Oui, bien sûr.
Comment vous évoluez l'introduction des armes en France? Vous comparez souvent le prix de la Kalachnikov au prix de l'iPhone.
Oui, il y a les théâtres d'opérations extérieures, la facilité avec laquelle on se procure des armes, et puis ensuite le besoin, quand on est dans le business de la drogue, il n'y a pas de policiers et de juges internes au milieu, donc il faut faire sa place par soi-même, il faut défendre ses territoires de vente, il faut défendre ses stocks. Donc quand les enjeux économiques deviennent énormes, la violence est le meilleur moyen de protéger le business.
Pour accompagner notre réflexion, on va en venir maintenant à vos enquêtes internationales sur la confiance en la police, il n'y avait pas mieux que Renault, ça c'est Renault haute époque. Le temps, Sébastien Rocher, de vos premiers travaux, lui aussi, il a évolué dans son point de vue sur la police.
C'est la nuit sur la banlieue, Willy ouvre enfin les yeux, il s'était pioté à l'aube, peut-être un peu fracasse, il se lève, se lave, se fringue, son blouson et son flingue, il a mal aux cheveux, tant pis. le v'là parti, ronde de nuit. De vie pour Willy Brouillard, le flicard, baston au voltigeur, pas bon, j'irai tout à l'heure, je fais pas le poids tout seul, sans les potes, puis j'ai pas mes menottes, direction l'Intermarché, hier soir ils l'ont pillé, rien à signaler. Tout est calme, y a rien qui crame. Ronde de nuit, au milieu des barbares. Drôle de vie, pour Willy Brouillard, le flicard.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Pour l'ensemble, à mon commandement, garde vous.
Vous venez d'incorporer donc l'école nationale de police de Périgueux. Vous allez travailler ensemble, on va travailler ensemble pendant un an. Donc on va faire de telle sorte que pour chacun et chacune, ça se passe du mieux possible. Bon, maintenant on est dans une école de police, donc il va falloir se soumettre à certaines règles. Même si vous êtes en civil, on exige une tenue correcte. Hein, les bonnets, les casquettes, les vêtements un petit peu trop voyants, niet. Éventuellement, aussi les piercings et autre chose, niet.
Les bonnets, j'ai vu que certains les avaient déjà enlevés, c'est bien. Les autres qui ne les ont pas encore enlevés, il faut le faire dans les 30 secondes qui suivent. D'ores et déjà, les téléphones portables, il faut les mettre en croix. Et ça prend effet dès maintenant. Hein ?
C'est vous qui serez chargé de faire accomplir, respecter les lois. Donc vous allez commencer par les respecter vous-même.
Alors, rassurez-vous, notre invité Sébastien Rocher n'est pas professeur à l'école de police de Périgueux. On entendait là deux introducteurs martiaux. Il est à l'école des officiers et des commissaires de police de Saint-Cyr en Mont-d'Or. Il va donc trouver un ton plus urbain, peut-être, pour commenter ce qui vient d'être dit. Vous publiez De la police en démocratie, Sébastien Rocher, aux éditions Grasset. Et la question que vous posez, c'est en effet celle des sergents-majors de l'école de Périgueux. Vous allez faire respecter les lois, mais l'idéal devrait de pouvoir se faire obéir avec l'usage le moindre possible de la force.
Oui, l'idée, c'est la police a besoin de se faire obéir. Ça veut dire qu'elle a besoin de l'adhésion de la population pour réaliser sa tâche de façon la plus aisée possible. Et la difficulté, c'est qu'en France, on n'apprend pas à servir les usagers, à communiquer avec les usagers. On apprend que force doit rester à la loi, c'est-à-dire que le policier doit toujours avoir raison, quoi qu'il en coûte. Et ça produit ce que j'appelle une infirmité relationnelle, une difficulté à établir le contact. Et la deuxième chose dont on souffre en France, c'est l'idée que la qualité est complètement absente. C'est le fait que la qualité est complètement absente des services de police. Il n'y a pas de notion de qualité, il n'y a pas de norme AFNOR de la qualité. Donc on est là dans la quantité, dans la mesure du nombre de faits, de contrôles, de délits, mais absolument pas dans la qualité qu'on imagine le
mais
même...
Mais vous êtes dans la quantité aussi, parce que avec Sciences Po Grenoble, des collègues de plusieurs pays d'Europe, vous avez monté une enquête internationale avec des questions du genre « La police traite-t-elle les personnes avec le même respect ?»
Oui, alors on est obligé d'utiliser des outils quantitatifs pour mesurer la qualité, bien sûr. Il y a deux choses. Hein. Donc, le service, la capacité à communiquer, ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est l'égalité. Si la police qui doit incarner la loi... Et donc incarner la loi, c'est incarner les plus grands principes de la loi. Et le premier principe qu'on trouve dans la Constitution, c'est l'égalité. Donc si la police a des pratiques discriminatoires au moment de réaliser les contrôles ou des comportements spécifiques par rapport à tel ou tel groupe social ou ethnique, eh bien l'idée même d'appliquer une loi qui soit la même pour tous est faussée. Et donc l'idée même que la loi est juste est faussée. Et donc le soutien à la police ne peut pas se produire.
Le contrôle d'identité, c'est une question centrale. Mais c'est quand même une drôle d'idée de sociologue, ça, que de vouloir mesurer, et qui plus est au niveau international, le degré de satisfaction après un contrôle. Un contrôle, c'est une rencontre non souhaitée. Vous faites une autre comparaison que je trouve un peu bizarre. C'est une situation émotionnelle proche de celle des rencontres amoureuses. Ah ben ça peut pas s'estimer, quoi.
Eh ben, en fait, tout dépend du modèle de société qu'on a en tête. Pour les pays du nord de l'Europe, qui sont des pays qui sont très attachés à la démocratie et dans lesquels les citoyens font confiance au gouvernement, une situation qui va surprendre en France. Qu'est-ce qu'on apprend dans les écoles de police? On apprend que la police doit gagner la confiance de la population. Donc on met la relation au cœur du métier, c'est le slogan de la police danoise, c'est le contenu du premier cours et c'est l'épine dorsale de l'enseignement du travail de police. La police n'est pas d'abord l'application de la règle, elle est d'abord le fait d'être la police du peuple.
Oui, mais dans les écoles de police, on apprend, et aussi sur le terrain quand on est stagiaire, des règles quant au contrôle. Il faut gérer les situations, mettre en corrélation l'énergie qu'on déploie et le caractère dangereux ou pas de la situation dans laquelle on se met.
Les situations sont très compliquées, très fluides, très variables, et donc un petit contrôle peut immédiatement dégénérer. Mais le fait d'être d'abord de multiplier les contrôles, le fait de cibler des parties de la population qui ont un très fort ressentiment, ça prépare au contrôle. Avant que le contrôle arrive, les policiers sont préparés à avoir un contrôle hostile et les populations contrôlées sont préparées à être accostées par une police discriminatoire. Donc, si vous voulez, ça c'est complètement explosif et c'est pour ça qu'en France, on a une situation qui est tendue.
Avec une volonté parfois de contrôler l'indocilité plutôt que l'identité.
Oui, en fait, la pratique du contrôle, elle sert à tout et à rien. Moi, je dis, c'est une sorte de couteau suisse dans la police française. Parfois, on contrôle parce qu'il y a une infraction. Parfois, on contrôle parce qu'il y a un comportement dangereux. Mais très souvent, on contrôle pour montrer que force doit rester à la loi. C'est moi, le policier, qui définit la situation. Et donc, si je vois quelqu'un qui me regarde de travers, je vais le contrôler pour lui dire, ici, c'est moi le patron. Et évidemment, le ressentiment est à la hauteur, disons, de la fréquence de ces comportements.
Enfin, beaucoup des élèves que vous avez dans les écoles de police doivent quand même dire, vous êtes un peu rigolo, Sébastien Rocher, vous vous affrontez pas aux situations de terrain. Un extrait d'un documentaire Flic de France de Juliette Sénic, je sais pas s'il a, jusqu'à quel point la scène est surjouée, mais elle est violente.
Plus tard, tu me regardes, c'est pas dire amoureuse, wesh, mon vieux.
Ah non, t'inquiète.
Ton regard,
t'inquiète. Parce que tu crois qu'au haut de tes 14 ans, tu me fais peur. Mais pourquoi tu t'en prends? Mais pourquoi t'as autant de haine là?
Parce que tout à l'heure, je tombe ma gueule, tu me regardes.
Mais qu'est-ce qu'on t'a fait? On t'a tapé, on t'a fait quelque chose?
Garde la pêche, arrête de me parler.
Garde la pêche, ça fait la deuxième fois qu'on me le dit dans la journée.
Connasse.
Garde la pêche, ça veut dire quoi?
Nique ta mère, t'as qu'à comprendre. Si tu comprends pas, tu niques ta mère la pute, connasse. Je vous l'injure parce qu'il y a marqué police, mais passe. Passe là où j'habite, je vais niquer ta mère, tu fais un tétoyement, on va niquer ta mère.
T'habites où? Bah vas-y, dis-moi où t'habites.
J'habite à Rébéval, viens.
À Rébéval. T'as grandi dans une cité encore plus gentille que la mienne, alors ferme ta bouche.
Ferme ta bouche de mes
couilles.
Pas les couilles de ta vie,
si tu veux. Redescends.
Bah, je vais niquer ta mère. Viens me faire un tête, parce qu'il y a marqué police, t'as un gueule à côté, tu te sens plus. Tu te sens plus, tu crois que t'es chaude. Elle nique ta mère, je sais que tu travailles à Eric Satie sur le corps d'un mec, je t'attrape à la sortie, je te nique ta mère là plutôt.
Tu veux savoir mes horaires? Alors c'est 6h45, alors 14h45.
En plus, tu sais, avec un air ironique, mais sur la tête de ma mère, je vais niquer ta mère, petite pute de ta France de merde. Toi, ta France toute pétée.
Allez, vas-y.
Bande de connard.
La France, elle en prend plein.
Elle pue la merde.
Elle en prend plein de peau, la France.
Elle pue la merde, votre
pauvre. Alors pourquoi tu vas pas ailleurs?
Parce que je reste ici, je squatte votre bouffe, je squatte votre staff, je squatte tout ici, mais c'est une France de merde pétée. Vous restez au bled, sur le camp, je resterai au bled, vieille France pétée.
Ah, la police au bled, c'est pas pareil.
Au bled, on vous a niqué, on vous a viré, votre de salopard de mes fesses, on vous a niqué vos mères.
J'ai bien cru entendre France de pédé, et j'ai bien cru entendre une référence au milieu de ce langage fleuri au bled. Un jour, vous est venue l'idée, Sébastien Rocher, de mesurer les clivages en fonction des appartenances religieuses. Où il apparaît que les Français qui aiment le plus la police sont les athées,
oui,
suivis des catholiques non pratiquants. Où il apparaît que les catholiques pratiquants, bon, oui, mais... Où il apparaît que les musulmans pratiquants, plutôt non, pour une part importante d'entre eux.
Oui, c'est une illustration ou un écho à ce qu'on a entendu dans le petit son qui précède. On a en France une hostilité à la police chez les jeunes, qui est plus marquée chez les jeunes musulmans, pour ceux qui sont le plus attachés à leur foi et le plus pratiquants. Et ce rejet de la police se conjugue également, comme dans le son qu'on a entendu, avec un rejet de l'identité nationale française qui paraît ne pas convenir, être une imposition et dont les valeurs ne collent pas avec les valeurs qui sont défendues par ces adolescents-là. Donc pour moi, ça a été une sorte de choc. Je suis venu sur ces thèmes progressivement par glissement successif et un petit peu par hasard. Et donc je suis pas un sociologue de la religion, mais lorsqu'on a introduit les variables religieuses en gros dans les systèmes de mesure, on s'est rendu compte, et je me suis rendu compte, de l'ampleur en fait de la fracture qu'il y a. C'est-à-dire que la fracture par rapport à la police, elle est bien sûr liée au quartier de résidence, à la pauvreté, etc., mais elle est aussi liée à la religion.
Il apparaît aussi que les jeunes hommes qui ont les comportements moraux les plus traditionnels, ou du moins qui les affichent, je ne sais s'ils les pratiquent, allez, grosso modo, pour faire simple, ils vont être prêts à injurier les homos et à caillasser les flics d'un même mouvement.
Oui, ce qui peut paraître curieux, c'est que chez les jeunes, le fait de soutenir la police, de penser que c'est pas une bonne idée d'être violent contre la police, etc., c'est quelque chose qui est lié à l'adhésion à des valeurs qui sont des valeurs fortes dans ce pays, dans notre pays, et notamment la liberté de chacun à vivre sa sexualité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc le rejet ou l'acceptation de la police se fait pour une part par rapport aux interactions, aux rencontres heureuses ou malheureuses avec les policiers, mais aussi par rapport aux valeurs. Et ceux qui rejettent les valeurs rejettent aussi la police.
Qu'est-ce qui rendrait la situation critique si elle ne l'est déjà?
Je pense qu'elle est déjà, elle était quand même déjà assez critique. D'un côté, effectivement, avec les processus de radicalisation, on a plusieurs centaines de morts en 2 ans, avec des niveaux qu'on n'a pas connus historiquement depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années.
Ouais, c'est pas encore les niveaux de la guerre.
C'est pas la guerre. On n'est certainement pas en guerre. La France est un pays solide, hein, qui peut encaisser un certain nombre de coups. Donc on a ces phénomènes-là. Et on a ces clivages latents en valeurs. Et si on a une concentration dans l'espace, c'est-à-dire si on a des lieux où les gens pensent d'une certaine manière et d'autres lieux où ils pensent d'une autre manière, c'est vrai qu'il y a des mécanismes de séparatisme, de séparation sociale, et à mon avis, ces mécanismes sont à l'œuvre dans le pays, pas au point qu'on va mourir, mais ils sont à l'œuvre.
Et comment faire pour que la police, dans ces circonstances, ne soit pas, elle aussi, séparatiste? Plaidoyer pour une police universaliste, je peux résumer comme ça, de la police en démocratie. Votre livre, Sébastien Rocher, c'est aux éditions Grasset. L'émission était préparée par Franck Olivard, avec à la technique Ludovic Asselot, à la réalisation Valérie Aestaray. Quoi donc au programme? Est-ce que c'est bien français d'ailleurs comme question, ça, Mathieu Vidard?
Oh oui, on va l'accepter comme ça, Jean.
Oui, puis en ce temps d'illettrisme, c'est ça?
Oui, on va parler d'un phénomène de grande ampleur. 7% de la population est touchée par l'illettrisme. Dossier de la tête au carré dans un instant.
Haut les cœurs grâce à France Inter.